Seb, comment vas-tu?
Ça va très bien, Émile. Car on part en road trip et on amène notre cabaret des curiosités du web dans plusieurs villes du Québec au cours des prochains mois. Dans ces shows live, on explore de drôles d'histoires qui parfois nous font rire et parfois nous terrorisent. Les histoires changent à chaque show.
Le tout débute à Gatineau le 27 avril dans le cadre du Festival Transistor. Après, on se retrouve à Shawinigan le 13 juin au Wabasso avec nos amis de Côté Sombre. Et le 11 juillet, on se retrouve à Longueuil dans le cadre du Comic Fest à la salle Fanplast. Les billets sont en vente pour tous ces shows-là et d'autres dates risquent de s'ajouter sous peu, donc restez à l'affût.
Rendez-vous au distorsionpodcast.com pour connaître toutes nos dates et vous procurer des billets. Si vous souhaitez que Distorsion passe faire un tour dans votre région, écrivez-nous. On a vraiment hâte d'aller à votre rencontre.
De retour à votre programme principal.
Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur...
Lars Mittank was a German international. He was 28 years old. So they ended up getting into like this big old brawl. They apparently kidnapped him, beat him up, and he was gone for a couple of days. His friends were super concerned. He came back and was like, "Yo, I'm good. Don't worry about me."
Des histoires étranges de l'ère numérique.
Lars Mittank part avec des amis dans la station balnéaire Golden Sands, en Bulgarie, pour célébrer les vacances d'été.
Après quelques jours sous le soleil paradisiaque, les choses prennent une drôle de tournure lors d'une altercation dans un bar.
Blessé à l'oreille, Lars se sent pourchassé et laisse des messages bizarres à sa mère. Lorsque vient le moment de prendre son vol de retour, il s'enfuit à toutes jambes à l'aéroport et disparaît dans la forêt.
Il ne sera plus jamais revu.
Suivez-nous au cours de l'étrange voyage de Lars Mittank, l'homme le plus recherché de YouTube. Sébastien Lévesque, comment vas-tu ce soir?
Ça va bien et toi, Émile Gauthier?
Ça va très bien parce qu'on s'attaque à un sujet qu'on a sorti de nos voûtes.
Oui, c'est vrai.
C'est un épisode hors saison, donc on aime ça faire ça de temps en temps. On dirait que ça nous enlève un peu de pression. On est un peu en vacances sous le soleil et puis on voulait enregistrer un épisode comme ça. La raison, c'est que en fait, on a déjà traité de l'histoire de Lars Mittank, qui est une histoire quand même bien connue, entre autres sur YouTube.
Oui, oui.
Beaucoup de YouTubers y ont consacré des vidéos, des podcasteurs et autres. C'est vraiment une histoire qui est fascinante, cette histoire de disparition-là, avec toutes les dernières minutes de Lars Mittank qui ont été filmées par des caméras de surveillance, des preuves numériques. C'est un dossier qui était vraiment fait pour nous et on en a traité dans notre premier livre, en fait.
Exact.
Donc ça, c'était en 2018 quand même qu'on a écrit notre chapitre.
Exact.
Donc ça fait longtemps. Puis on se disait, c'est cool dans le livre tout ça, mais en même temps, en podcast, ça pourrait être le fun aussi pour nos auditeurs, étant donné que dans le livre, on n'a pas forcément nos réflexions, on n'a pas nos réactions à chaud, tout ça. Donc, on s'est dit, pourquoi pas replonger dans nos documents de recherche, faire des updates aussi, parce que depuis 2018, il y a eu quelques nouvelles informations. On n'a pas retrouvé Lars Mittank, malheureusement. Je ne veux rien spoiler ici. Mais il y a quand même eu des nouveaux trucs. Donc, on a revampé un peu notre épisode. Puis, puisqu'on se disait, on ne va quand même pas sortir un épisode qui était exclusif au livre dans notre saison régulière, on s'est dit, on va sortir hors saison en bonus.
Oui.
Donc, on se prend une bonne petite bière ce soir. et on va faire le tour de cette histoire-là qui est assez fascinante, vous allez voir. Puis en after show aussi, pour nos chers membres Patreon, on va traiter, je dirais, de l'histoire de Brandon Swanson, qui est une autre mystérieuse disparition en lien un peu avec un état de confusion. Mm-hmm. Là, on ne sait pas dans son cas si c'était l'ivresse causée par l'alcool, s'il est arrivé un accident ou s'il s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Mais c'est un jeune homme qui est disparu en 2008 dans le Minnesota aux États-Unis et qui a appelé ses parents et qu'il a laissé un drôle de... en fait, ses dernières paroles ont été quand même assez troublantes. Puis il n'a jamais été revu. On a retrouvé sa voiture dans un ravin. Ça fait penser un peu à l'histoire de Maura Murray ou encore à l'affaire de Emma Filipoff.
C'est vrai.
Donc, c'est des histoires qui sont un peu similaires de ce côté-là. Un état de confusion qui mène à une disparition inexplicable encore aujourd'hui. Donc, en after show, on va traiter de cette histoire-là de Brandon Swanson et on va en discuter ensemble, mon cher Seb.
Excellent.
J'espère que ça vous va comme programme.
Ooh.
Et là-dessus, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui?
Oh, c'est mille, on boit la Broken Q de la microbrasserie, le cinquième baron, Charlotte à Elmer, encore
une
fois.
Qu'on a découvert au Festival Radio Numérique, le cinquième baron.
Honnêtement, c'est devenu, personnellement, une de mes microbrasseries préférées. Honnêtement, ils ont vraiment des belles cuvées, une belle cuvée. Et la Broken Q, c'est une double Nord-Est, donc une double New England IPA, 8% d'alcool, donc ça frappe. Elle est bien riche. Il y a des houblons de Simcoe et de Mosaïque et le goût est assez tropical, là, comme on les aime.
Yes.
Et ça nous a été offert, mon cher Émile, par Julie Gorry.
Shout-out Julie.
Oui, merci beaucoup, qui nous a offert une tournée de bière via notre site web. Vous allez sur distorsionpodcast.com, petite tournée de bière, un bouton, un petit don PayPal et la bière va au frigidaire.
Yes. Très gentil à ceux qui nous donnent encore des tournées de bière. En fait, on aurait ce qu'il faut pour remplir un truc. Donc, merci encore. Ça nous fait plaisir de déguster ces bières-là, puis d'en découvrir des nouvelles, puis de vous en faire découvrir aussi. On a un shout-out qu'on va donner aussi à ceux qui nous donnent encore des reviews 5 étoiles sur Apple Podcast. Donc, merci après 6 ans de nous en donner encore.
C'est vrai.
C'est vraiment apprécié. La review nous vient de Billy Callen qui nous dit « Qu'est-ce que je fais maintenant? Je vous ai découvert il y a moins de 2 mois avec l'épisode sur The Antword. Je ne sais pas ce qui s'est passé depuis, mais 105 épisodes plus tard et quelques mini-distos, je crois qu'à mes prochains jours de travail, il va me manquer quelque chose. Déjà hâte aux prochains épisodes. »
Tu dois être content, cher Billy, parce qu'aujourd'hui, on a un beau bonus.
Exactement.
Et merci. Puis je voulais juste vous dire, sur Spotify aussi, vous pouvez donner une review. On ne peut pas la commenter.
C'est vrai.
Mais vous pouvez aussi donner une review 5 étoiles. Donc, si vous utilisez cette plateforme-là et si ça vous chante, n'hésitez pas.
Oui, un gros merci à vous, guys. Merci de vous joindre à nous aussi en plein été et de nous accompagner au cœur de cette histoire. On vous rappelle que on va être de retour avec une autre saison aussi l'automne prochain, avec encore une fois des bonus et autres. Donc, suivez-nous, vous allez voir, on va donner plus de détails cet été. Et on va aussi suivre avec un épisode qui a été voté par la communauté. Vous avez été plus de 700 personnes à voter pour à nous suggérer des épisodes. Et c'est l'épisode de Grace Millane, en fait, qui est une histoire tragique survenue tout de même récemment en Nouvelle-Zélande. Une touriste qui a été assassinée là-bas, je vous en dis pas plus. Une histoire qui a quand même passionné le public néo-zélandais. C'est troublant, une tonne de traces numériques, c'est fascinant. Et donc, on est déjà plongé dans l'histoire, on vous revient là-dessus très bientôt avec l'épisode. Alors Seb, est-ce qu'on est prêt à se plonger dans l'épisode d'aujourd'hui?
Oui, mais juste avant de commencer, Émile, on doit donner un gros shout-out à notre partenaire NordVPN qui présente l'épisode d'aujourd'hui. Dans notre monde hyper connecté, c'est très important de se protéger et de protéger nos données sur le web et de s'assurer d'utiliser Internet de façon anonyme. Et c'est pour ça qu'on vous recommande l'utilisation de NordVPN pour protéger vos communications numériques.
Je sais pas si tu savais, Seb, mais quand on voyage, c'est prouvé qu'on peut sauver d'énormes coûts en se connectant à partir du pays de notre destination. Oh. Les gens de NordVPN ont fait le test, puis c'est des centaines de dollars qu'ils ont sauvés sur des locations d'hôtels, mm-hmm. des locations de voitures, en se connectant, par exemple, sur des sites de booking à partir du Mexique ou à partir de l'Italie ou d'autres pays. Donc, je ne le savais pas, puis c'est super intéressant. Donc, on peut sauver des coûts sur les voyages grâce à NordVPN.
Oh oui, c'est un bon argument, ça. C'est vraiment fascinant, honnêtement. Là, je ne pense pas que je vais rebooker quelque chose sans l'utiliser. En plus de ça, avec NordVPN, Émile, vous avez la liberté de naviguer sur Internet en toute sécurité où que vous soyez. Justement, que vous soyez en déplacement, en voyage ou à la maison, NordVPN vous protège contre les menaces en ligne et vous permet d'accéder à tout le contenu que vous désirez, comme si vous étiez à la maison, même si celui-ci est bloqué géographiquement.
Donc, pour améliorer votre sécurité numérique, rendez-vous sur nordvpn.com/distorsionvpn pour profiter d'une offre exclusive et d'une réduction plus qu'intéressante sur votre forfait, ainsi qu'un cadeau bonus. Donc, avec la garantie de remboursement de 30 jours, il n'y a aucun risque à essayer. Donc, rendez-vous au nordvpn.com/distorsionvpn ou cliquez sur le lien dans la description de l'épisode pour vous abonner et commencer à naviguer sur le web en toute sécurité. Et maintenant, Seb, est-ce qu'on est prêt à attaquer l'épisode d'aujourd'hui?
Oui, monsieur!
Et en toute sécurité. On va commencer, Seb, en se mettant un peu en contexte de la vie de Lars Mittank, que lui est un Allemand, et de se mettre un peu en contexte pour voir quels étaient ses objectifs dans la vie, où il était rendu. C'est quelqu'un qui avait un nouvel emploi, justement, puis qui avait envie d'aller passer du bon temps avec ses amis en Europe de l'Est, en fait. On le sait, hein, rien n'est plus agréable que de quitter la ville pour profiter de l'été. En plus, si on peut jumeler ça à une escapade à la plage avec des amis, c'est exactement ce que font chaque année là, des milliers de jeunes adultes à la station balnéaire de Golden Sands, qui est située près de Varna, en Bulgarie, sur les rives de la mer Noire. Donc, nous, ici, on allait célébrer le Spring Break à Daytona en Floride ou même en Virginie, des États américains. Donc, on quittait le Québec pour aller saccager leur ville, qui était pas très belle au retour. Mais eux aussi, en fait, ont leur destination. Dans le cas de Golden Sands, je pense pas que c'était aussi trash que Daytona Beach.
Ouais, ouais.
Mais c'est un endroit où plusieurs Européens aiment se rendre là, pour prendre des vacances. Cet endroit-là, qui est quand même assez paradisiaque, il est réputé là, pour attirer de nombreux touristes d'Europe de l'Est, de Scandinavie aussi, et d'Allemagne, bien sûr, tout comme Lars. On pourrait le comparer, moi je disais Daytona, mais un peu un genre d'Ibiza, l'Est. Où les visiteurs se divertissent là, en fréquentant les nombreux bars, les restos, les plages de la région, grâce à beaucoup de formules tout inclus, là, un peu à la Club Med. Là. Lars Mittank, lui, était âgé de 28 ans. C'est quelqu'un qui est originaire d'une petite ville du nord de l'Allemagne. Et ses quatre amis, qui étaient ses camarades de classe, ont également décidé de s'offrir cette escapade avec eux, là, une escapade bien méritée, à l'été 2014. Donc, le groupe, qui se connaissait depuis longtemps, avait économisé tout au long de l'année pour se permettre de profiter de la plage et des diverses distractions offertes par cette région de Bulgarie. Je suis allé voir un peu sur Google Maps, tout ça, ça a l'air quand même assez intéressant, là, sur le bord de la mer, tout ça. Beaucoup de bars, beaucoup d'endroits qui semblent être aussi des attrape-touristes. On en parlera un petit peu plus tard. Mais oui, ça a l'air d'un endroit quand même assez intéressant. Après, je suis pas spécialiste des tout inclus en Europe non plus. J'en ai jamais fait. Donc, les distordus qui sont déjà allés, peut-être que vous êtes déjà allés. Partagez donc votre expérience à Golden Sands.
Je serais curieux.
En Bulgarie. Le 30 juin, donc 2014, les cinq amis ont quitté l'aéroport de Hambourg en Allemagne pour se rendre à l'aéroport de Varna en Bulgarie, qui représente un court vol de 2 heures seulement. très court. Ils avaient prévu de séjourner à Golden Sands et plus précisément à l'hôtel Viva Club, où ils avaient opté pour la formule tout compris qui incluait les repas, les boissons, plein d'attractions, de spectacles, de choses comme ça. Mm-hmm. Donc leur plan était de passer une semaine là-bas et de rentrer chez eux le 7 juillet, retrouvant ainsi leur famille et reprenant leur quotidien habituel. Cependant, ils étaient loin de se douter que cette semaine de fête dans un lieu paradisiaque mettrait la vie de Lars en danger. Encore moins pouvaient-ils s'imaginer que des années plus tard, les internautes s'efforceraient encore de reconstituer les événements autour de ce mystérieux voyage dont seules quelques caméras de surveillance avaient été témoins. Et malheureusement, les images capturées par ces caméras ne présentaient rien de rassurant.
Non.
C'est dur à expliquer dans un podcast, mais on va faire notre possible pour vous les décrire. Pas beaucoup d'audio, par contre, non, dans ces caméras.
Vrai,
c'est souvent ce que je reproche. Hein, c'est dur de reprocher. Parfois, elles sont tellement loin,
c'est
les caméras, que même si elles avaient un micro, sans doute qu'elles ont un micro, mais que c'est totalement impertinent.
Oui. Puis dans des foules comme ça, le son doit être avoir tellement de bruit distinct.
Oui.
Ça doit être brouhaha. Là, ça doit être difficile d'isoler un son en particulier.
Oui, c'est clair. Je vais vous parler un peu plus de qui est Lars Metank avant de se lancer dans la chronologie des événements. C'est un jeune homme de 28 ans qui était sportif, en très bonne santé, mesurait 1m80 et faisait 85 kilos. C'était un grand sportif, donc le sport en particulier qu'il aimait, c'était le football européen qui était au centre de sa vie. Donc c'était un passionné de football et connaissait tous les détails du jeu. On parle de soccer ici, évidemment.
Oui,
avec sa belle chevelure blonde, il arborait souvent des vêtements de marques sportives telles qu'Adidas, Puma et autres. Lars avait une vie sociale aussi qui était bien remplie. Il y avait une petite amie avec qui il était en couple depuis un certain temps. Puis il y avait un large éventail d'amis, en fait, qui avaient tous grandi dans la même petite nord de l'Allemagne, qui est Itzehoe, le nom de la ville. Il travaillait, lui, à la centrale électrique, en fait, près de Itzehoe, qui est un emploi qui semblait apprécié. C'est un endroit vraiment... Il y a beaucoup de gens dans cette ville-là qui travaillent à la centrale, de ce que je comprenais. C'était vraiment... c'est un gros employeur. Plusieurs villages d'autour sont constitués de gens qui travaillent là aussi. Lars, lui, était très proche de sa mère, puis il envoyait régulièrement des textos, même lorsqu'il était en voyage. Et depuis que son père avait subi un arrêt cardiovasculaire, un AVC, Lars rendait souvent visite à ses parents pour les aider, entre autres avec les tâches ménagères. Il était donc un bon garçon, très généreux, dont tout le monde parlait en bien. Itzehoe, c'était une petite ville, Seb, d'environ 32 000 habitants, avec un riche passé historique médiéval. Donc, il y avait beaucoup de petites maisons à toits rouges et pointues, là, typiquement allemandes, nichées là, au cœur d'une magnifique campagne. Quelques clochers d'église aussi permettaient d'apercevoir la ville au loin. Itzehoe avait la particularité rare d'être situé en dessous du niveau de la mer, donc exactement à 3,5 mètres, ce qui lui conférait le titre de la ville la plus basse d'Allemagne, en fait. Bien que la ville offrait de beaux paysages, elle n'est pas c'est pas une ville qui est en fait très touristique. Là. Il n'y a pas énormément d'attractions, mettons. Cependant, les initiés de la musique métal pourraient la connaître car elle se trouvait à 15 km du célèbre festival Wacken Open Air, qui attirait chaque année des dizaines de milliers de visiteurs. Moi, je suis jamais allé, mais on dirait que c'est un peu un rêve en moi d'aller à ce festival-là. Okay. C'est vraiment le gros festival européen de métal, toutes les bandes obscures, mais aussi des gros noms c'est vraiment la ville se remplit. Doit avoir 150 000 personnes qui débarquent dans le petit village.
Wow.
Donc, je pense que ça peut devenir même problématique. Pendant le festival, les visiteurs occupaient tous les hôtels, fréquentaient tous les restaurants. Donc, même que ça dépassait le nombre, évidemment, d'habitants locaux. La centrale, maintenant, où Lars travaillait, elle est exploitée par l'entreprise E.ON, qui est un des plus gros employeurs de la région. Et l'aéroport le plus proche d'Itzehoe se trouve à Hambourg, en Allemagne aussi, évidemment, à environ 50 km. C'est là que leur aventure a commencé lorsque les cinq jeunes hommes ont pris l'avion pour la Bulgarie. Donc, pour eux, c'est pas un big deal. Hein, t'sais, l'aéroport est pas trop loin, 50 km, un vol de 2 heures. Donc, c'est pas si pire, en en fait. C'est moins compliqué que pour nous si on veut se rendre à une plage au soleil.
C'est plus simple qu'à la Québec, quasiment de nous. Là.
Oui, exact.
Le 30 juin 2014, le groupe est arrivé à Varna, la troisième plus grande ville de Bulgarie. Ils devaient ensuite prendre un bus qui les conduirait directement à Golden Sands, qui était situé à 17 km de là. Les premiers jours du voyage se sont bien passés et le groupe a pleinement profité de la ville. Paul Roman, l'un des amis de Lars, s'est souvenu lors d'un interview à la télévision allemande et il nous dit « Nous avons beaucoup relaxé sur la plage, nagé à la piscine de l'hôtel, joué au football et sorti dans les clubs. Lars était de bonne humeur et très détendu. » La région de Varna et de Golden Sands, bien qu'elle attire de nombreux touristes dans ses hôtels et ses stations balnéaires, elle est également connue pour la présence du crime, en fait. Varna est considérée comme le quartier général de la mafia bulgare, qui est impliquée dans le trafic de drogue, d'armes, ainsi que dans l'industrie du tourisme et du sport.
Ouh.
C'est fou, ça! En tant que ville portuaire importante, elle constitue une porte d'entrée et de sortie stratégique pour les marchandises illégales entrant ou sortant de Bulgarie. Au fil du temps, plusieurs règlements de compte entre membres de groupes criminels et quelques meurtres inexpliqués ont eu lieu dans la région. De plus, la présence importante de prostituées dans la région est liée au commerce organisé par les membres du crime. Bien entendu, les visiteurs qui ne quittent jamais leur station balnéaire n'ont presque aucune perception de ces activités criminelles.
Oui, c'est clair. C'est souvent ce qui arrive dans le cas des stations balnéaires, c'est que des fois, tu es dans des régions qui sont complètement défavorisées ou même le peuple en arrache, mais les touristes sont dans la luxure et dans l'illusion, en fait, puis ne sortent jamais de sa station. Donc, c'est bien glamour d'y aller, mais ça fait pas en sorte qu'on connaît plus la culture locale.
Non, t'as absolument raison. Les premiers jours se déroulent sans encombre. Le temps passe rapidement et tout semble se dérouler normalement. Le 6 juillet, les cinq gars décident de sortir de leur hôtel pour aller dans des boîtes de nuit. Ils s'arrêtent au Rock Bar, un bar-concert où le guitariste local Diane joue des classiques du rock tous les soirs. L'endroit dispose d'une grande terrasse et attire une clientèle qui est principalement attirée par la musique live qui y est jouée. Selon les avis sur le site de voyage TripAdvisor, parmi de nombreux faux commentaires positifs, un classique, l'endroit semblait être de moins en moins fréquenté ces dernières années et elle a même fermé ses portes en 2018.
Oui, il y a plusieurs drôles de commentaires quand on regarde les reviews TripAdvisor. On en a quelques-unes, me semble, de noter. Là.
Oui, exact. Comme par exemple, j'ai trouvé le Rock Bar très ordinaire. Je sais que certains diront autrement, mais tout dépend de ce que tu aimes. Leur service était bon, mais il ne manquait pas de tables vides. La musique est bonne, je vous en dis un autre. La musique est bonne et l'alcool est à un prix raisonnable. J'y suis retourné quelques fois. Un point négatif, vous risquez de vous faire accoster par les femmes de la nuit.
Oui.
On peut en déduire. Et finalement, une petite dernière, le Rock Bar est désormais fermé et démantelé. C'est très, très triste. Diane va maintenant jouer au Gribaltar tout au long de la saison 2018. Donc, au moins,
le guitariste s'est relocalisé.
Oui, exact.
Il s'est trouvé un autre bar.
Tant mieux pour lui. Après quelques verres au Rock Bar, la soirée se passe plutôt bien jusqu'à ce qu'une altercation éclate entre Lars et un autre groupe de Bulgares locaux. Selon les témoignages, les deux parties se sont disputées à propos de leur équipe de football préférée. Les rivalités entre les différents clubs de football européens peuvent rapidement devenir émotionnelles et prendre des proportions impressionnantes. Dans ce cas précis, Lars était fan de l'équipe de Brême, tandis que le groupe de Bulgares était des fervents supporters de l'équipe de Munich. Bien qu'aucune violence réelle n'ait été signalée lors de cette altercation, la tension monte et les nerfs sont à vif, ce qui pousse Lars et ses quatre amis à quitter le bar et à rentrer à pied à l'hôtel.
Oui, c'est du sérieux, hein, le soccer dans certains endroits. Il y a certains endroits, certains bars où tu peux carrément craindre pour ta vie.
Ah oui, les gens se battent, ils deviennent fous là, pour une équipe sportive.
Il est très courant de se déplacer à pied à Golden Sands et la plupart des gens le font en toute confiance. La station balnéaire est assez petite et les rues regorgent d'hôtels et de restaurants de toutes sortes. Cependant, certains coins de rue donnent une impression de désolation avec plusieurs locaux commerciaux complètement vides. La nuit, l'atmosphère paradisiaque laisse place à une ambiance urbaine complètement différente de celle du jour. En réalité, certaines rues peuvent susciter de la crainte une fois la nuit tombée. Cependant, les cinq jeunes hommes sportifs et pleins de vie n'ont rien à craindre et avancent d'un pas décidé, verre d'alcool à la main. Parce que oui, ils se sont déplacés avec, avec leur bière et ils étaient un petit peu nonchalants de ce qui se passait aux alentours. Le groupe décide de s'arrêter au McDonald's pour prendre un repas à emporter. Le restaurant est situé du côté de la plage à Varna, le long d'une petite rue commerçante qui borde la mer. Lars décide de ne rien prendre et attend un peu à l'écart de ses amis. Après quelques minutes, lorsque les quatre garçons ont récupéré leur commande, ils se dirigent vers la rue pour retrouver leur ami. Étrangement, Lars n'est plus à la sortie du restaurant. Ils attendent un peu et cherchent autour du bâtiment, mais finissent par reprendre leur chemin, pensant que Lars est simplement retourné à l'hôtel de son propre chef. Puis lorsqu'on on examine le trajet là, que les cinq garçons ont fait, lorsqu'on le regarde dans Google Street View, on remarque que le McDonald's en question est assez différent de ceux auxquels on est habitué. C'est un petit McDonald's avec uniquement un comptoir à emporter accessible depuis l'extérieur, près de la rue, puis quelques tables extérieures là, pour s'asseoir. Donc, il est très étrange que ses amis n'aient pas remarqué son départ parce qu'ils étaient tous un peu à l'extérieur, sans aucune porte ou mur là, pour les séparer. Donc, bien qu'aucun média n'ait mentionné l'heure exacte des événements, Google nous informe que le McDonald's ferme tous les soirs à 21h30, ce qui suggère que la soirée n'était pas très avancée au moment des faits. C'est tôt pour un McDo, oui, quand même, 21h30. Ouais. De plus, lorsque nous recherchons l'itinéraire sur Google Maps, on constate que l'hôtel des garçons se trouve à environ une demi-heure de marche du McDo, ce qui est assez long aussi là, pour une commande à emporter. Oui. Donc, tu commandes, mais tu vas marcher à l'hôtel. Donc, Lars serait parti manger à l'hôtel. Je pense qu'il avait peut-être plus l'intention de manger sur la plage, je ne sais pas. Oui, bien sûr, en fait, tout ça, c'est juste des suppositions, puis ça doit être pris avec précaution, mais on dirait que rien n'est clair là, autour de ce qui est survenu au McDonald's cette nuit-là. Bien sûr, tout ce que je vous dis, c'est juste des suppositions, puis ça doit être pris vraiment avec précaution, mais on dirait que rien n'est clair à propos des événements qui sont survenus au McDo là, ce soir-là. On ne sait pas où est-ce qu'ils voulaient manger, on ne sait pas pourquoi ils ne voyaient plus Lars. C'est bizarre, c'est bizarre qu'il ait disparu comme ça là, dans la nuit. Mais bref, ils sont repartis à l'hôtel. Ils n'ont pas retrouvé Lars ce soir-là, du moins.
Oui, oui.
Donc, ils ont repris leur chemin sans leur ami, ce qui devait quand même les inquiéter un peu.
Oui, effectivement. Lorsque les quatre amis de Lars retournent à l'hôtel, ils constatent qu'il n'est toujours pas là. Bien qu'ils commencent à trouver ça étrange, ils se disent que Golden Sand regorge de distractions et il est probable que leur ami ait fait un détour par un autre resto ou un bar en rentrant. Ils ne s'inquiètent pas outre mesure. Lars est un adulte de 28 ans, après tout. Le lendemain matin, à leur grande surprise, Lars revient à l'hôtel Viva Club pour retrouver ses amis. On est alors le 7 juillet 2014, le jour où les cinq amis doivent quitter l'hôtel, attraper leur vol pour Hambourg et rentrer chez eux. À son retour, Lars est dans un état physique pitoyable et semble manifestement troublé. Il indique qu'il ne se souvient plus de tous les détails de la nuit précédente ni de ce qui s'est passé après leur arrêt au McDo. Cependant, il se rappelle avoir été attaqué par un groupe de quatre individus dans la rue. Lars a la mâchoire cassée et a été frappé à la tête. Incapable d'identifier ses agresseurs, il pense qu'ils étaient probablement des Russes ou des Bulgares locaux et qu'ils ont été envoyés par le groupe avec lequel ils ont eu une altercation au Rock Bar la veille au soir. Les quatre amis de Lars sont à la fois confus et attristés d'entendre cette histoire, mais ils ont de sérieux doutes quant aux affirmations de leur ami. Ils se consolent en se disant qu'ils rentrent tous chez eux aujourd'hui et laisseront cet incident derrière eux. Par contre, on ne sait toujours pas où Lars Mittank a passé la nuit, ni s'il était inconscient pendant tout ce temps. Alors que le groupe quitte l'hôtel et s'apprête à prendre un taxi en direction de l'aéroport de Varna, Lars fait une annonce. Il explique qu'il souffre énormément à l'oreille et qu'il craint de prendre l'avion dans cet état. Il affirme qu'il doit absolument consulter un médecin. Il est possible qu'il ait une commotion cérébrale suite au coup à la tête qu'il a reçu. Il annonce au groupe qu'il ne rentrera pas avec eux et qu'il va essayer de rester un jour ou deux de plus à Varna pour se faire soigner. Ses amis lui proposent de rester avec lui pour l'aider, mais Lars insiste sur le fait qu'il peut gérer la situation lui-même. Il part donc de son côté dans un autre taxi.
Qu'est-ce que tu ferais, toi, Seb, si il y avait un de tes amis dans un groupe d'amis dans un autre voyage qui proposait de rester seul quelques jours puis qui était quand même blessé, là?
Ah oui, mon Dieu, c'est une bonne question. J'aurais de la misère, j'aurais de la difficulté à partir. Ou j'essaierais de garder contact beaucoup pendant le vol, ou du moins, je serais déchiré. Tu sais, je comprendrais le fait que c'est un grand garçon puis qu'il peut s'arranger. Mais j'aurais la difficulté. Probablement que j'aurais, à moins d'une, comment dire, que j'aurais pas pu, là. Mais sinon, je pense que j'aurais reporté mon billet ou quelque chose, simplement pour rester avec lui. Je crois là, que j'aurais fait ça. Et toi, qu'est-ce que t'aurais fait?
Moi aussi, j'aurais tenté de peut-être rester avec lui, mais parfois, on peut être convaincant hein, dans notre... Lars était peut-être très convaincant. Là, peut-être qu'il leur disait oui, « ça va bien, il n'y a rien de grave. »
Ouais,
tu sais, donc, peu importe comment eux se sentaient, je pense qu'ils n'ont pas à s'en vouloir non plus. Demandé. Peut-être que sa condition n'était peut-être pas si grave en apparence,
du moins, exact.
À ce moment-là. Mais c'est sûr que c'est un dilemme qui est pas évident. Là, laisser quelqu'un seul dans un voyage... comme ça, là.
Ouais, dans un autre pays. Bref. Ce jour-là, Lars parvient à consulter un médecin de la région, le docteur Boris Nagenau, qui lui confirme qu'il a le tympan brisé. Le médecin lui suggère immédiatement une intervention chirurgicale pour le réparer, mais Lars refuse, craignant de se faire opérer en dehors de son pays, l'Allemagne. Il se voit alors prescrire un antibiotique, du cifuroxime, en comprimé de 500 mg, et ça, c'est couramment utilisé pour traiter les infections bactériennes. En sortant de l'hôpital Sainte-Anna, le taxi l'attend toujours à l'extérieur et il doit se procurer sa prescription. Il fera deux pharmacies en compagnie du chauffeur de taxi pour finalement avoir accès à sa prescription vers 22 heures. À ce moment-là, il n'est pas clair si Lars va réellement prendre ses antibiotiques, car selon le docteur, la prescription n'a jamais été officiellement récupérée en pharmacie. Quoi qu'il en soit, il est fortement déconseillé de prendre un vol avec un tympan brisé à cause des changements de pression à l'intérieur de l'avion qui peuvent aggraver sérieusement les dommages déjà présents.
Ben oui, déjà sans tympan brisé, ça peut être intense pour les oreilles.
Ça fait mal. Moi, j'ai toujours mal. Je déteste ça, là. Lars doit également trouver un logement pour cette journée supplémentaire en Bulgarie. Étant donné qu'on est en haute saison à Golden Sands, la tâche n'est pas facile. Il décide donc de choisir l'hôtel Color, qui est situé en dehors de Golden Sands, mais qui est près de l'aéroport de Varna. L'hôtel est assez abordable et il réussit à se louer une chambre pour seulement 25$ pour la nuit. Les critiques en ligne indiquent par contre que malgré une décoration passée de mode, l'hôtel Color est recommandé et est géré par une famille qui est très sympathique. De plus, Lars n'a pas l'intention de rester longtemps car il prévoit de prendre un vol le lendemain matin. C'est à partir de ce moment-là, dès son arrivée à l'hôtel, que Lars commence à se comporter de manière très étrange. Tout d'abord, il souhaitait aller se chercher de la nourriture après ses péripéties en ville et il voit un petit marché de l'autre côté de la rue de son hôtel. Il décide de ne pas y aller, car il aperçoit quelques hommes habillés en noir juste en face de l'épicerie, ce qui le décourage de sortir.
Il commençait à se sentir suivi.
Oui, exact.
Lars décide plutôt d'aller directement à sa chambre et paye avec une carte de crédit. Vers 23 heures, il se dirige au bas de l'hôtel pour remplir sa bouteille d'eau. Par la suite, il appelle sa mère pour qu'elle ajoute de l'argent sur son téléphone portable payant. Il lui raconte d'ailleurs tous les événements du week-end, l'altercation au rock bar, la bagarre et le tympan brisé. Ce soir-là, vers minuit et demi, Lars, paniqué, appelle sa mère, Sandra Mittank, en Allemagne. D'une voix tremblante, il lui demande de contacter sa banque pour bloquer ses cartes bancaires et de crédit. Sa mère, qui est confuse, lui demande ce qui se passe et Lars lui répond qu'il croit être poursuivi par 4 hommes qui ne veulent pas qu'il quitte la Bulgarie. Il croit que l'homme à la réception de l'hôtel aurait copié sa carte de crédit. Mmh. C'est pour ça qu'il veut que sa banque la bloque. Il dit aussi à sa mère qu'il croit que sa chambre est buggée, c'est-à-dire qu'elle est truffée de micros de surveillance. Et vers 1h du matin, Lars rassemble ses affaires et quitte subitement l'hôtel au milieu de la nuit. Les caméras de surveillance de l'hôtel le captent alors qu'il erre dans le hall de l'hôtel, surveillant constamment l'extérieur par les fenêtres. Plus tard, il est filmé en plein désarroi, se cachant dans l'ascenseur de l'hôtel. La dernière nuit de Lars à Varna s'annonce très mouvementée. Plus tard dans la nuit, Sandra Mitank reçoit un autre message, un message texte cette fois-ci, de la part de son fils sur son téléphone portable. Et Lars lui demande « qu'est-ce que la Cefuroxim 500 ?» en faisant référence aux antibiotiques qui ont été prescrits. Mm-hmm. Sa mère est très surprise par cette question, car elle suppose que le médecin lui a tout expliqué ça. Il se trouve que cet antibiotique, il est couramment prescrit pour prévenir différents types d'infections. Vers 3h du matin, Sandra reçoit un autre appel du téléphone portable de Lars. Imaginez comment elle doit être inquiète, sa mère. Là. Et cette fois-ci, la conversation est très inquiétante. Au bout du fil, Lars semble agité et elle entend sa respiration qui est très forte. Il dit « Les personnes qui me suivent se rapprochent, elles sont maintenant très près de moi ». Lorsqu'elle lui demande de fournir plus de détails, Lars répond qu'il ne peut pas car la batterie de son téléphone risque de s'éteindre bientôt. Puis là, il est important de noter qu'à ce stade-ci, Lars ne se trouve plus dans la station balnéaire de Golden Sands. Là. Donc, c'est une différence notoire. Il est maintenant à plusieurs kilomètres de là, au cœur de la ville de Varna. Là. Donc, c'est un environnement différent. Si des personnes le poursuivent réellement, elles doivent avoir une motivation assez importante pour lui faire du mal afin de déployer autant d'efforts. Donc, s'agissait-il vraiment d'une dispute liée au football européen, cette dispute-là dans le bar? Je me pose un peu la question. On ne connaît pas l'ampleur exacte de l'altercation qui a lieu la nuit précédente. Donc, sur la base des informations dont on dispose, le comportement de Lars à ce stade ressemble davantage à de la paranoïa, selon moi, qu'à une réaction face à un réel danger.
Oui, absolument.
Vers 5h du matin, Lars monte finalement dans un taxi en direction de l'aéroport. Personne ne sait ce qu'il a fait pendant le restant de la nuit. Un autre passager qui partage le taxi avec lui remarque que Lars a une importante mydriase, une dilatation des pupilles, ce qui attire l'attention du passager et du chauffeur. Les deux vont le noter. Et une mydriase, ça peut être causé par plusieurs facteurs allant d'une forte réaction émotionnelle à la consommation de drogue.
Oui.
Il est difficile de déterminer précisément ce qui a pu provoquer ce phénomène chez Lars puisque, il prenait des antibiotiques, en même temps, il y avait une forte réaction émotionnelle. Donc, il est également important de noter qu'un violent coup à la tête ou une commotion cérébrale peuvent aussi causer des mydriases.
Okay.
Le cas le plus célèbre est celui du chanteur David Bowie, en fait, dont la pupille gauche est restée dilatée toute sa vie. Je sais pas si t'as déjà vu une photo de David Bowie.
Je m'en rappelais plus de ça.
Oui, tu en regarderas après qu'il ait reçu un coup de poing au visage, en fait.
Ah
oui? Ouais. Compte tenu de tout ça, il est possible qu'il souffre d'une blessure plus grave qu'une simple déchirure du tympan selon cette mydriase-là. Là. Bref, si on analyse un petit peu ce côté-là.
Une fois arrivé à l'aéroport de Varna, Lars envoie un message texte à sa mère pour lui confirmer qu'il est bien arrivé. Il lui dit « Je viens d'arriver au terminal, 3 points ». Après une nuit stressante, Sandra Mitank se réjouit de voir son fils qui est finalement arrivé à l'aéroport. Elle se dit qu'il sera à la maison d'ici quelques heures. Cependant, avant de prendre son vol, Lars doit absolument faire vérifier l'état de son oreille par le médecin attitré à l'aéroport. Pendant ce temps, sa mère lui réserve un billet d'avion pour Hambourg ainsi qu'un billet de train jusqu'à Itzehoe. Elle lui transfère également 500$ via Western Union. Sandra est surprise de cette demande car jamais elle n'a vu Lars utiliser ce service de transfert bancaire. Ce 500$ ne sera jamais utilisé ni même récupéré par Lars.
Ouais, c'est curieux.
Ouais. Les caméras de surveillance montrent en fait entrer dans le terminal vêtu d'un t-shirt jaune et de shorts noirs. Il porte un sac de sport blanc et noir ainsi qu'un sac à dos rouge. Il se comporte calmement et ne semble pas paniquer alors qu'il marche dans les couloirs de l'aéroport. On le voit ensuite entrer dans le bureau du médecin où le docteur Kosta Kostov le reçoit pour l'examiner. Selon le médecin, l'oreille de Lars était en bon état et lui a donné son approbation pour prendre le vol comme prévu. Cependant, Lars était très nerveux et anxieux selon les dires du médecin, même si cet examen était tout à fait routinier. Il a également exprimé au docteur Kostov qu'il ne faisait pas confiance à la prescription qui lui avait été donnée auparavant. À ce moment précis, un employé de la construction entre par inadvertance dans le bureau du médecin en raison des nombreux travaux de rénovation en cours dans le terminal. Lars change complètement d'expression, devient extrêmement tendu et murmure d'une voix presque incompréhensible « Je ne veux pas mourir ici. Je veux absolument quitter cet endroit. » On voit que ça lui a créé un état de choc, là. Lars laisse derrière lui tous ses effets personnels, son portefeuille, son téléphone ainsi que ses deux sacs de voyage dans le bureau du médecin et se met à courir à toute vitesse à travers le terminal de l'aéroport. Les caméras enregistrent chaque instant de ce comportement extrêmement étrange. Dans un autre angle de caméra, on le voit sortir en sprintant du terminal et se diriger vers l'arrière du stationnement. Il escalade ensuite la clôture de sécurité de l'aéroport en passant à travers les barbelés, puis se dirige vers la forêt, disparaissant de la vue des caméras. Ces images capturées par les caméras de l'aéroport seront le dernier moment connu de Lars Larsen. On ne le reverra plus jamais.
Les jours passent et personne ne reçoit de nouvelles de Lars Mittank. Les preuves vidéo que nous avons grâce aux images de caméras de surveillance de l'aéroport sont les dernières véritables preuves que l'on a de lui. Ces images seront bien sûr analysées au peigne fin. Une chose est frappante, c'est vraiment étrange de le voir courir comme ça sans ses effets personnels, sans aucun sac et rien d'autre que son t-shirt et ses shorts. Malgré le fait qu'il soit sévèrement affecté par un tympan brisé, Lars court très vite. Il est dans une grande forme physique. Oui, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais quand tu vois les vidéos de surveillance, il s'enfuit vraiment à toutes jambes.
Oui, il court.
Il sort dans le parking, il fait le tour de... il contourne comme l'entrée de l'aéroport. On s'entend que ce n'est pas un énorme aéroport non plus. Oui. L'aéroport de Varna, c'est quand même plus petit que Montréal ou Charles de Gaulle.
Oui, oui.
Mais ceci dit, on le voit courir. Puis mon Dieu, il court vraiment vite. Il court vite.
C'est vraiment
quelqu'un qui était en forme. Puis pour la nuit qui a passé, c'est ça, l'alcool qu'il a consommé la veille, les médicaments, le tympan brisé, la mâchoire cassée, je trouve vraiment qu'il semble être en très bonne forme là, cette journée-là.
Oui, oui, ben l'adrénaline. Hein.
La forêt environnante près de l'aéroport où Lars a été vu pour la dernière fois est fouillée de fond en comble, mais il reste introuvable. Apparemment, à l'époque des faits, il y avait un vaste champ de tournesol près de l'aéroport où un individu aurait pu facilement prendre la fuite. Des chiens pisteurs ont été utilisés et des drones ont aussi survolé la région. Cependant, après quelques jours, aucune piste sur Lars Mittank n'a été trouvée. Au-delà des bois, une autoroute traverse un champ qui mène à une autre forêt. Il est donc possible que Lars ait fait de l'autostop sur l'autoroute ou qu'il se soit aventuré plus profondément dans les bois. La zone de recherche devient de plus en plus vaste. Il faut mentionner aussi que les enquêtes sur les disparitions de touristes ne sont jamais vraiment faciles. Parce que d'un côté, il y a les familles dans leurs pays respectifs qui font de leur mieux pour accélérer les choses à distance. On l'a vu en Damien Véron avec sa sœur disparue au Japon. C'est pas évident de faire des recherches là-bas. Là. La barrière de la langue, c'est très loin, c'est très coûteux. Donc, d'un côté, t'as ça. Et de l'autre, ben, t'as les forces de l'ordre qui ont parfois d'autres priorités.
Exact, exact.
Donc, dans les régions où il y a beaucoup de crimes, des fois, c'est difficile de jumeler les deux. Là. Dans ce cas-ci, la police bulgare pourrait avoir d'autres affaires plus urgentes que de s'occuper d'un homme de 28 ans qui a quitté l'aéroport de son propre chef. De plus, les autorités locales n'ont aucun intérêt à médiatiser l'affaire parce que le tourisme est l'une des industries les plus importantes à Golden Sands. Donc, par conséquent, l'enquête n'avance pas aussi rapidement que la famille l'aurait souhaité. Les enquêteurs et les médias allemands décident de publier les enregistrements des caméras de surveillance sur la plateforme de partage YouTube. Très rapidement, l'histoire devient virale et les internautes commencent à mener leurs propres enquêtes, partageant les images troublantes des derniers moments de Lars. La vidéo accumule des dizaines de millions de vues à ce jour et est copiée et republiée à plusieurs reprises. Il y a un groupe Facebook qui est créé qui permet aux membres de la famille et aux internautes du monde entier de communiquer et d'échanger des pistes. L'histoire est reprise par les médias allemands et fait l'objet d'une couverture nationale là-bas. Lars devient rapidement l'homme le plus recherché de YouTube, en fait. Il semblerait toutefois que Sandra, la mère de Lars, a vu des extraits de caméra différents de ce que nous, on a vu, Seb, là, nous, les simples mortels. Oui. Puis ça, c'est une nouveauté qu'on ne savait pas en 2018, quand écrit notre chapitre. C'est sorti plus tard, ça. Elle a donc révélé dans une entrevue que les enquêteurs lui ont montré des images de l'aéroport qui n'ont pas été diffusées, où on voit Lars, entre autres, courir en évitant des voitures de police, comme si on tentait de le capturer. Par la suite, on le voit éviter des voitures et même des autobus sur la rue avant de prendre la fuite vers les bois. Image que nous, on a vue. Donc, en fait, elle a vu comme toute l'histoire. Là. Sandra ajoute que ce qui lui a sauté aux yeux en voyant ces images, c'est que Lars semblait très furtif dans ses déplacements et qu'il était très habile dans ses mouvements. Là.
Oui, oui.
Encore une fois, elle aussi, elle a noté que malgré qu'il s'était blessé à l'oreille et qu'il y a eu une nuit difficile la veille, elle était surprise de le voir à ce point-là, tenir tête même aux policiers qui essayaient de l'attraper ou quelque chose comme ça. Puis ça, on ne l'a pas vu, nous. Puis c'est normal, parce que quand on regarde les images, je trouvais que quelque chose clochait, parce que rapidement, tu le vois sortir, tu le vois courir dans l'aéroport, sortir du bureau du médecin, courir en dehors de l'aéroport, se diriger sur une rue dans le parking, mais tout de suite après, les images d'après, il saute la clôture, il se dirige dans le bois. Mais on sait bien que dans un aéroport, généralement, il y a des taxis, il y a des autobus, il y a des voitures de stationner, donc... le fil de l'histoire nous laissait croire que c'était vraiment un petit aéroport au milieu d'un champ.
Oui, c'est vrai.
Tandis que là, ben, on sait qu'il s'est passé d'autres trucs entre, mais que les policiers n'ont pas diffusé. Des fois, ils font ça, ils omettent de diffuser certaines scènes parce que ça peut sous-entendre quelque chose, peut-être l'état psychologique dans lequel il était, peut-être que ça peut faire peur aux internautes même de voir ça, ou aux parents, ça peut servir le mauvais message. On l'a vu avec Elisa Lam.
Oui, c'est vrai.
C'est les images qui ont diffusé dans l'ascenseur, il aurait à la limite pas dû faire ça parce que tout le monde avait l'impression qu'elle était possédée.
Oui, exact. Puis les time codes qu'ils ont enlevés, en tout cas, bref.
Oui, exact.
Mais dans ce cas-ci, étant donné que c'était... Je me demande si c'est quasiment pas une question d'image, dans le sens que vu qu'il... Ben, d'image de la police, là, dans le sens que, étant donné qu'ils contournaient des chars de police, j'ai l'impression que des fois, ils font très attention aussi à ça. Là.
Oui, ça se peut.
Des fois, ils retirent des images pour ne pas nuire à l'enquête, mais dans ce cas-ci, j'ai pas l'impression que c'est vraiment ça le motif, mais effectivement...
Ils voulaient pas montrer que Lars était plus en forme que les policiers.
Oui, exact. Mais tu sais, je me demande... tu dis qu'il était très furtif. Un peu plus tôt, on disait qu'il avait les pupilles dilatées. On dirait que des fois, j'ai l'impression qu'il était sur les amphétamines.
Mm-hmm.
Parce que ça te rend très alerte.
Ou quelque chose comme ça.
Oui, c'est ça, exact. Donc, j'ai ce feeling-là, même si ça n'a jamais été tant adressé. Là, puis j'ai l'impression que ce n'est pas le cas, mais c'est bizarre. Il y a aussi des comportements qui ressemblent à ça aussi. Un peu.
Ah, clairement, je suis d'accord avec toi. Je ne sais pas exactement tous les effets secondaires que cause l'antibiotique en question.
Oui.
Mais c'est vrai qu'il a l'air quand même assez... comment dire, les nerfs à vif, là, malgré sa situation.
Même la paranoïa, les gens qui prennent trop de speed et tout ça, à un moment donné, tu tombes dans un état de paranoïa aussi. Là, donc, on dirait que j'ai l'impression qu'il... Peut-être que la veille, il était tombé là-dessus. Il y a même des médicaments en pharmacie qui en contiennent, tu sais, de la pseudoéphédrine et tout ça, là, qui sont des équivalents. Bref, difficile à dire.
Non, c'est clair. Suite à la diffusion de ces images-là, ben, il y a des témoignages qui localisent Lars à différents endroits suite à la diffusion des vidéos. Cependant, aucune piste sérieuse n'émerge de ces témoignages et les policiers sont parfois débordés, trop débordés même, pour vérifier chaque nouvelle piste. Les semaines passent et les parents sont toujours sans nouvelles de leur fils unique. Sandra Mitenk décide alors d'engager un détective privé du nom d'Andreas Gutig. Le détective examine attentivement toutes les vidéos de surveillance à la recherche d'un détail qui aurait pu échapper aux enquêteurs. Il contacte également les refuges pour sans-abri et les hôpitaux de la région de Varna pour vérifier si un homme sans identification ressemblant à Lars aurait été signalé. Gutig se rend discrètement à Varna pour rencontrer les commerçants et distribuer des affiches. À sa grande surprise, personne ne rapporte avoir aperçu le jeune homme blond au cours des semaines précédentes. Il semble que Lars Mitenk se soit littéralement volatilisé dans la nature.
Au fil des mois suivants, les ressources allouées à l'enquête diminuent progressivement et les enquêteurs de Varna se tournent vers d'autres affaires. Interpol émet un avis de recherche à l'échelle mondiale car il est probable que Lars ait quitté le pays. Pendant ce temps, les internautes ne relâchent pas leurs efforts. Une section dédiée à la disparition de Lars est créée sur le célèbre site Reddit, comme on connaît tous, et plusieurs podcasteurs et YouTubers abordent le sujet. Cette visibilité génère quelques pistes sérieuses pour l'affaire. Un an plus tard, un conducteur prétend avoir pris en autostop un homme qui ressemble énormément à Lars Mitenk près de Varna. Il est important de rappeler que Lars s'est enfui dans une zone traversée par une autoroute. Malheureusement, les enquêteurs ne parviennent pas à corroborer ce témoignage avec d'autres preuves et le mystérieux autostoppeur ne sera jamais retrouvé. En décembre 2015, des Bulgares de la région de Varna contactent les parents de Lars via le groupe Facebook. Ils ont identifié un sans-abri qui lui ressemble, bien qu'il semble avoir beaucoup vieilli. Un détail important est que cet homme parle à la fois allemand et anglais, tout comme Lars. Après avoir été en contact avec lui, la famille confirme malheureusement qu'il ne s'agit pas de leur fils disparu.
Ça doit être triste ça, de s'en rendre compte, surtout quand il y a plein de pistes comme ça qui fusent de partout.
Oui, et tu dois avoir toujours un espoir, veux pas. Là, donc non, ça doit être doublement, tu dois avoir toujours la déception doit être toujours plus grande, j'ai l'impression, les hypothèses arrivent. Là,
oui. Puis c'est normal qu'il ait potentiellement changé d'apparence parce que c'est con, là, mais c'est quelqu'un qui est surtout un homme avec la barbe et tout, qui passe du temps, par exemple, dans la rue ou s'il se retrouve un peu sans abri pendant un certain temps, rapidement, son hygiène, son poids, tout va changer, justement, la barbe, les cheveux vont allonger. Ça se peut qu'il ait plus l'air du beau jeune blond sportif qu'il avait l'air quand il a quitté l'Allemagne.
Effectivement. Hein, si t'arrêtes juste d'arrêter de se raser ou de gérer nos poils, là, t'sais, déjà là, juste ça peut te changer le visage. Puis t'as raison, hein, quand tu fais du sport, ça change ta posture, ça change tout. Donc si tu changes, effectivement. En décembre 2016, l'enquête prend un autre tournant. Des policiers de la ville de Porto Velho, au Brésil, interpelle un homme qui marche nu, un nu-pied en fait, le long de la route. Cet homme semble très confus et incapable d'expliquer clairement en fait ce qu'il fait là. De plus, il n'a aucune pièce d'identité sur lui, ni de portefeuille, et ses vêtements sont complètement déchirés. La ressemblance entre cet homme et Lars Mitenk est frappante, même taille, même poids, même condition physique et surtout la même chevelure blonde. Cependant, encore une fois, après vérification, il s'avère que cet homme est en réalité un Canadien disparu 5 ans plus tôt, nommé Anton Pilipa, qui a erré au Brésil pendant tout ce temps et qui a souffert de problèmes mentaux au cours de son périple. Bien que les proches de Lars soient déçus que cet homme ne soit pas leur fils, cette histoire de retrouvailles redonne tout de même un peu d'espoir. Et c'est vrai.
Quand même, ben, c'est fou que la disparition de quelqu'un ait permis de retrouver quelqu'un d'autre.
Oui,
quand même.
C'est fou. Hein, ouais.
Même si ce n'est pas la bonne personne, c'est quand même fou. Puis c'est encore une fois quelqu'un, la personne retrouvée, Anton Pilipa. Écoute, on pourrait presque faire un épisode sur lui. Lui aussi, c'est un cas de... Ben, on ne sait pas encore qu'est-ce qui est arrivé à Lars, mais bon, c'est une des théories. Mais lui aussi, c'est un cas de problème de santé mentale survenu pendant un voyage.
Oui, oui, oui.
Un peu même Emma Filipov, ça semblait être un peu dans le même genre de situation.
Oui,
on ne le sait toujours pas, mais c'est une des hypothèses. Donc, c'est fou qu'une histoire similaire permette de retrouver quelqu'un qui a vécu une histoire similaire.
Oui, oui, t'as absolument raison. En septembre 2017, un internaute va secouer Reddit une fois de plus en affirmant avoir aperçu Lars au Canada, à pied, près de la frontière ontarienne, sur la section Germany, Allemagne, consacrée au sujet concernant l'Allemagne. Un utilisateur du nom de Silski poste un message étrange. « Bonjour. Comme vous pouvez le voir par le titre, je crois avoir retrouvé le disparu Lars Mittank. Si ce nom ne vous dit rien, voici un lien, blablabla. » Et là, il nous dit « En marchant dans la rue, j'ai aperçu un homme qui ressemblait énormément à Lars, de ce que je me rappelle après avoir visionné des vidéos sur lui sur YouTube. Il ne semblait pas très bien, il avait presque l'air d'un sans-abri. Une fois que je me suis approché de lui, j'ai réussi à mieux l'observer et je peux confirmer à 99,9% qu'il s'agissait bel et bien de l'homme en question. J'ai donc approché Lars en étant très curieux. Je l'ai questionné sur sa disparition. Mittank m'a alors observé et j'ai eu l'impression que ses yeux pénétraient mon âme, un sentiment d'inconfort que je n'oublierai jamais. Par la suite, il a prononcé quelques phrases en allemand, je crois, qui sonnaient comme ça. « Wa git bi ir a yon telephone ». Pardonnez-moi mon allemand. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire à part le mot « téléphone ». J'ai donc assumé qu'il voulait utiliser le mien. Je lui ai dit que non, il ne pouvait pas l'utiliser. Par la suite, il m'a redemandé la même chose, mais cette fois-ci presque en me suppliant, en mentionnant un mot ressemblant à « ilf ». Je ne parle pas allemand, donc une traduction serait appréciée. Par la suite, j'ai appelé au numéro de téléphone affiché sur la page Facebook dédiée à la recherche de Lars, mais l'appel n'a pas abouti. Je ne savais pas où publier mon témoignage à part sur Reddit. Je vais tenter de prendre une photo de lui et de la poster ici si je le revois. Évidemment, l'utilisateur ne sera pas pris au sérieux car il a du mal à fournir des détails précis sur la scène. Il prétend que Lars s'est adressé à lui en allemand, lui demandant s'il pouvait utiliser son téléphone, ce qu'il a étrangement refusé. De plus, lorsqu'on visite le profil de Silski, on constate que le profil a été créé uniquement pour publier ce commentaire-là. Cette piste est donc considérée avec méfiance, là.
Oui, évidemment. T'sais, si tu penses avoir retrouvé quelqu'un d'ultra connu, c'est un petit peu aberrant de ne pas lui prêter ton téléphone.
Oui, effectivement. J'ai jamais trop compris.
Mais oui, ce thread-là, il n'a pas l'air à l'avoir revu, en fait. Non. Il disait, si je le revois, je vais publier une photo, mais bon,
ça n'a pas donné
de suite. Donc, ça fait très longtemps maintenant, à ce stade-ci, Seb, là, que Lars Mittank n'a pas été revu. Ça fait plusieurs années. Et les possibilités qu'il soit encore errant là, dans les environs de Varna, qui n'est pas une grande ville, deviennent de plus en plus minces. Une hypothèse tragique parfois évoquée est celle d'un réseau de trafic humain, en fait, qui aurait fait de Lars potentiellement une victime. Cette région de l'Europe de l'Est est tristement connue pour ses activités de traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle, mais aussi pour le trafic d'organes, entre autres.
Ah oui.
Donc, est-ce que ça serait possible que Lars lui-même soit tombé entre de mauvaises mains cette fameuse nuit de juillet et qu'il a été suivi depuis l'altercation dans le bar, je ne sais pas, puis éventuellement capturé?
Oui, oui.
ou peut-être a-t-il rencontré d'autres personnes malveillantes après sa fuite de l'aéroport? Parce que ça aussi, c'est intriguant. Là. Il n'a jamais été retrouvé dans un endroit qui est pas très fréquenté. Là. Nous ignorons toujours les détails entourant les événements survenus lors de l'arrêt au McDonald's aussi de Golden Sands. Oui. Et encore moins ce qui s'est passé dans les heures qui ont suivi alors que Lars était porté disparu. On se rappelle qu'il dit avoir été battu par 4 hommes dans une rue là, en revenant du McDo. Là. Donc c'est quand même particulier. Je me dis, ses amis qui devaient marcher sensiblement le même trajet auraient pu entendre quelque chose ou voir quelque chose. Oui, c'est vraiment bizarre. Mais tout laisse penser que cet incident a déclenché une spirale infernale. Il est possible que Lars ait subi une blessure plus grave, en fait, que celle diagnostiquée au tympan, comme une commotion cérébrale. Par exemple, lorsqu'elle n'est pas traitée, une commotion cérébrale, ça peut être à l'origine d'une certaine forme d'anxiété, de paranoïa qu'aurait ressenti Lars à ce moment-là. Là. Il est aussi possible qu'après s'être enfui de l'aéroport, il ait tenté de se cacher dans les bois avoisinants et qu'il se soit désorienté à partir de là. Étant donné son état mental altéré, il est possible aussi qu'il se soit perdu ou blessé dans les bois et qu'il ait succombé au fil des jours, victime des éléments naturels. Mm-hmm. Bien que le boisé est très vaste, il est situé dans un environnement relativement urbain et pollué, donc à proximité d'une autoroute et d'un aéroport, il y a pas beaucoup de fruits, de plantes comestibles pour survivre aussi. Là.
Ah, j'avoue.
Et selon certains internautes, étant donné que toutes ses affaires seraient derrière lui, mais c'est encore plus difficile de s'en sortir. Mm-hmm. Mais en même temps, moi, je me disais que, tu sais, étant dans un boisé comme ça, proche de l'aéroport puis de l'autoroute, c'est facile de s'orienter aussi, là. C'est facile de retrouver une autoroute, ça fait du bruit,
oui,
tu vois les bretelles au loin. Me semble que c'est pas comme si tu étais dans à 100 km dans le bois quand même. Là.
Non, effectivement.
Donc, on dirait qu'il a peut-être voulu se cacher un certain temps en attendant que la menace qu'il percevait parte. Je sais pas
non,
trop.
J'ai l'impression que c'est ça, étant donné qu'il se sentait pourchassé.
Puis moi, personnellement, je crois très peu en l'hypothèse du kidnapping et du trafic humain. S'il craignait vraiment être la victime d'un réseau, il s'était pourtant rendu jusqu'à l'aéroport, donc l'endroit le plus sûr en ville, d'une certaine façon, pour se réfugier et chercher de l'aide. Donc, il était juste à quelques heures seulement de quitter le pays. Donc, il était vraiment très proche de son but, en fait, là. S'il était réellement la cible de kidnappeurs, ceux-ci ne l'auraient jamais laissé se rendre jusqu'à l'aéroport. Là. Il l'aurait kidnappé avant. Mm-hmm. Mais il est toutefois possible qu'après sa fuite, il se soit retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Peut-être qu'il y a des gens malveillants qui se cachent dans ce boisé-là. Mais il n'y a pas eu de corps trouvé non plus. Là.
Non, exact.
Mais c'est possible qu'il n'hallucinait pas les gens qu'il suivait. Ça, c'est une théorie aussi que les gens se sont demandés.
Oui,
t'sais.
Oui.
Est-ce possible qu'il ait mis sa vie en danger en interagissant avec les gens de la bagarre, t'sais, qui se sont relancés au point où ça devenait vraiment, vraiment menaçant? T'sais.
Ouais.
Mais en même temps, il est ressorti après avec ses amis, même après l'altercation. Donc, il semblait pas craindre pour sa vie à ce moment-là.
Oui, on dirait que j'y crois moins à ça. Je peux pas croire que quelqu'un... ça reste quand même du sport.
Non, c'est clair. Mais bon, on ne sait jamais.
Ouais, exact, oui, c'est vrai.
Puis il y a aussi un fait qui n'était pas connu à l'époque où on a écrit notre livre, Seb, c'est que le docteur Kostov, tu sais, le docteur qui l'a vu à l'aéroport, lui a changé sa version 3 fois sur l'intrus qui est entré dans la salle, dans son bureau de médecin, en fait. Parce que cet intrus-là, c'est ce qui a déclenché la fuite de Lars.
Exact, exact.
Il y a quelqu'un qui est entré, lui pensait que c'était un membre du personnel de l'aéroport, puis il est parti à la course à ce moment-là. Ça a été ça le déclencheur.
Ouais, exact.
Puis le docteur Kostov, 3 fois, en parlant aux enquêteurs, il a changé ses versions des faits sur cette personne-là. Mmh. Il a dit une fois que c'était un employé d'une compagnie aérienne, à un autre moment, c'était quelqu'un chargé de l'entretien de l'aéroport, puis qu'à un autre moment donné, c'était quelqu'un qui chargeait des bagages.
Okay.
Puis étrangement, il a décrit cette personne-là, puis ils n'ont jamais retrouvé qui que ce soit qui correspondait à ce physique-là dans les employés de l'aéroport. Donc, c'est vraiment bizarre, ça aussi, ce côté-là. Là. Donc, c'est encore plus louche, mais bon, est-ce que on dirait que ce qu'on retient un peu de ça, dans les théories ou les hypothèses, je ne sais pas si tu penses comme moi, mais c'est sans doute, en fait, l'état mental, peut-être, qui a été accentué par la prise de médicaments ou drogue ou alcool, qui a déclenché ça, tu sais, parce que... au cœur des disparitions les plus célèbres, on retrouve souvent ce dénominateur-là qui est un peu la maladie mentale. Là, t'sais.
Ah oui, malheureusement, c'est vrai.
Donc, je ne sais pas, toi, si tu as d'autres hypothèses autour de ça, Seb, qu'est-ce que tu crois qui pourrait lui être arrivé à Lars?
Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il a souffert d'une commotion cérébrale qui l'a amené à une paranoïa, qui s'est sauvé puis il s'est perdu dans le bois. J'ai vraiment cette impression-là qu'il s'est perdu tout simplement, qu'il a été désorienté. Parce que, imagine, on ne sait pas combien de temps il a couru aussi. Hein?
Non.
Puis, tu peux courir longtemps sur l'adrénaline quand même. Puis ça
oui,
peut aller,
tu peux te rendre loin.
Tu peux te rendre loin, là. Puis justement, près des aéroports, généralement, c'est quand même des secteurs un peu plus isolés des villes. Oui. Là, je suis pas allé à cet endroit-là, là, mais ça reste quand même toujours un peu plus isolé. Donc, il s'est peut-être vraiment perdu. Puis il est mort de faim. Puis à un endroit qu'ils n'ont peut-être pas pensé à rechercher et retrouver un corps... Moi, j'ai vraiment cette impression-là. Je pense pas qu'il soit tombé dans du trafic. On dirait que... Puis là, je sais pas si c'est du sexisme, mais j'ai l'impression que les hommes, ils ont moins tendance à être impliqués dans du trafic sexuel. Mais peut-être que je me trompe aussi. Là, tu sais, surtout des hommes hétéros. On dirait que je trouve qu'ils cadent moins, mais c'est peut-être moins.
Ouais, mais il semblerait avoir du trafic d'organes
oui,
aussi
ben,
dans
c'est
la
ça,
région.
Les organes, ça se pourrait quasiment. Tu sais, à la limite, tu vois quelqu'un de vulnérable, ça, même si je trouve tout le temps que ça fait de la fiction du trafic d'organes, j'ai toujours l'impression de regarder un film. Mais sinon, on dirait que j'ai pas tant de théories à part celle qu'il a complètement perdu la carte, il s'est sauvé, il s'est perdu, il est mort de faim ou par, comme tu disais, les éléments de la nature. Là. Toi, est-ce que tu vois quelque chose de plus complexe? Ou...
Je ne suis pas sûr qu'il s'est... moi, j'ai l'impression qu'il est peut-être encore en vie, on dirait.
OK, OK.
Parce que je crois que quelqu'un comme lui peut survivre quand même assez longtemps. Mais j'ai l'impression aussi que c'est sans doute ça. C'est sans doute un bouleversement au niveau psychique, en fait, qui a fait en sorte qu'il s'est sauvé. Il s'est peut-être rendu très, très, très loin, mais j'ai l'impression qu'il est peut-être... Il a peut-être un peu perdu la carte, puis c'est peut-être un peu retrouvé dans, dans des endroits en ville où des gens comme lui se retrouvent, des gens sans domicile fixe ou en période de transition, par exemple. Mm-hmm. Donc, j'ai l'impression que peut-être on pourrait le retrouver un jour. Tu sais, c'est arrivé qu'on a retrouvé des gens comme ça dans des lieux où, justement, sont plus rejoignables. Ils n'ont plus de téléphone, ils n'ont plus d'adresse fixe. Mais sans doute que, je veux dire, il ne doit pas avoir la même vie qu'il avait dans le temps.
Non, pas
là.
Du tout. Là.
Il y a aussi une hypothèse qui avait été émise comme quoi peut-être que lui était impliqué dans une histoire de trafic de drogue ou autre. Dans le sens que peut-être que ce qui expliquait peut-être que tout ça, la blessure à l'oreille, c'est une excuse pour ses amis, qu'il ait délayé le retour de son pour revenir seul parce qu'il pensait amener quelque chose, puis que quand il a vu l'intrus arriver dans le bureau, mais il a peut-être cru que c'était un agent qui voulait fouiller ses bagages, puis qu'il s'est sauvé. Donc il y avait un peu un comportement outre la nuit de paranoïa puis tout ça. Il y avait un peu le comportement de quelqu'un qui avait peut-être quelque chose à cacher
oui,
aussi.
Oui, il se sentait coupable. Oui, oui,
mais
oui.
Ça, j'ai l'impression que toute la conversation avec sa mère dans la nuit, tout ça vient comme contrebalancer cette théorie-là. Tu sais, je pense pas qu'il aurait tout fait ça s'il y avait un plan bien calculé en tête. Il aurait pas inquiété sa mère. S'il y avait un plan de transfert de drogue ou autre, il aurait agi normalement, fait comme si de rien n'était. Donc, je pense que oui. Moi, j'ai l'impression que le coup à la tête a été plus grave que le tympan déchiré, que sans doute vraiment plus grave, une commotion cérébrale, quelque chose comme ça. Puis que moi, on dirait que j'ai espoir qu'il soit encore en vie, mais ça se peut très bien, effectivement, qu'il n'ait pas survécu à tout ça. Là.
Non, puis je repense à ce que tu dis. Tout à l'heure, quand je disais qu'il avait peut-être pris des amphétamines, avec ce que tu dis, tu sais, je me suis dit, est-ce qu'il aurait voulu acheter ça, il en aurait consommé? Ou une transaction de drogue qui a mal tourné, un peu comme tu dis, tu sais. Il voulait peut-être juste acheter des comprimés, peut-être même pour le lendemain.
Oui, exact.
Puis souvent, ça peut mal tourner aussi. Là. Donc, j'avais pas pensé à ça. Ça pourrait être juste, ça pourrait être ça aussi. Là, parce que c'est son état de paranoïa, oui, la commotion, mais les yeux ronds, on dirait que...
Ouais.
Je le sais que sous l'adrénaline, ça fait ça, mais c'est tellement typique des amphétamines, puis que c'est apparent là, que tu le vois.
Ben oui, c'est clair.
Là, donc, non, c'est, C'est vraiment troublant. Puis sa mère, puis ses pauvres femmes. Puis on n'en parle pas, mais sa blonde aussi. Hein. Il y avait une blonde au moment des faits. Elle, il me semble qu'on n'en a jamais
de temps. Elle toujours sans réponse.
Oui, exact. Pauvre elle, tu sais, elle a refait sa vie, c'est sûr, mais elle est en deuil. Puis son deuil, comme toute personne qui a perdu un proche et qui ne connaît pas la fin, le deuil est beaucoup plus difficile à faire. Donc,
oui, tout à fait.
Ça ne doit pas être simple.
Bref, c'est une histoire remplie de mystères. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous en pensez, vous, les distordus. Laissez-nous le savoir. On est facile à trouver. On est sur Twitter, Instagram, on est sur TikTok aussi. Allez regarder nos Disto News. Oui. On est sur YouTube, Facebook, bien évidemment. On a un groupe de discussion privé. Et on est sur Patreon aussi. Si vous voulez contribuer à la magnifique communauté Patreon, vous avez accès aux after-shows. N'oubliez pas que tout de suite après cet épisode, pour nos membres Patreon, on fait un after-show sur la disparition de Brandon Swanson, qui est disparu dans des circonstances un petit peu similaires. Donc, on va en parler pendant quelques minutes, moi et Seb. Aussi, sur Patreon, vous avez accès à nos épisodes secrets qu'on enregistre à chaque saison. Et il y en a un tout nouveau, tout frais qui est en ce moment pour cette saison-ci. Oui. Donc, il est disponible à nos nouveaux abonnés Patreon. Merci de vous joindre à nous et merci à nos abonnés qui sont là depuis le tout début. Vraiment, on ne pourrait faire ce show sans vous. C'est très, très apprécié. N'oubliez pas qu'il y a aussi notre épisode voté par la communauté sur l'histoire de Grace Millane, qu'on va sortir aussi dans les prochaines semaines. Donc, surveillez ça. Ça sera encore une fois en primeur sur Patreon, évidemment, éventuellement disponible sur toutes les plateformes. Et d'ailleurs, là-dessus, Seb, on doit donner quelques shout-out à nos membres Patreon. Je te laisse y aller.
Oui, je fais un gros high-five à Mabo, Camille B, Ugly Kid Jew, Laure A et Laureline E.
Un gros shout-out à Karim K, à Maxime G, à John Dix, à Kevin R et à D30.
Je poursuis avec Miguel BP, Elodie, Tac, Marie V et Julien G.
Un gros câlin à Nathalie B, à Charles G, à Armel, à Vince L et à Fabienne D.
Je poursuis et j'envoie du soleil et de l'amour à Stéphanie B, Christine P, Bernard L, Camille R et Iman L.
Aussi un gros high five et une tape dans le dos à Lana D, à Camille C, Louis-Marc C, Louis-Georges D et Catherine B.
Et je poursuis, merci Lisa V, Martin T, Soulière, le ou la mystérieuse F. Mondou, Kevin MC.
Aussi, je poursuis avec Yann R, Maureen D, Guy L, David V et Guillaume B. Shout out à vous.
Et je poursuis avec MP, Judith, Sonia, Marie Pop et Jolène C.
Et pour terminer, une ovation à Canbarge, à Laurence L, à Patrick P, à Carole P et au mystérieux John. Et pour le mot de la fin, Seb, on a demandé l'avis à ChatGPT sur l'histoire de Lars Mittank. Je te laisse nous la réciter.
L'histoire de Lars Mittank nous rappelle le pouvoir de la solidarité humaine et de la communauté en lien. Des internautes du monde entier se sont rassemblés pour mener leur propre enquête, partager des informations et offrir leur soutien à la famille de Lars. Les médias sociaux ont permis de donner une visibilité à cette affaire et de susciter l'espoir d'une résolution.
Oui, monsieur.